Chapitre 6. La course à la présidence. Au cours des mois qui précédèrent le meurtre, la succession de la présidence de la banque Ebesner avait constitué une petite saga qui avait passionné Genève. Tout avait débuté en janvier, dans les premiers jours de l'an, lorsqu'Abel Ebesner, emblématique président de la banque pendant les 15 dernières années, était mort, à un âge respectable, emporté par un cancer. À l'annonce de son décès, tout le monde avait considéré que la présidence reviendrait de droit à Macaire, le fils unique d'Abel. Depuis la fondation, 300 ans plus tôt, de leur banque familiale, les Ebesner s'étaient transmis les rênes de l'entreprise de père en fils. « Seul un Ebesner peut diriger la banque Ebesner », répétait-on aux employés et aux clients, comme s'il s'agissait d'un gage d'une extraordinaire qualité. Mais voilà qu'avant de mourir, Abel Ebesner avait fait inscrire dans son testament que cette tradition de relais filial serait enterrée avec lui, et que le prochain président de la très prestigieuse banque serait désigné non pas pour son nom, mais pour son mérite. Sous contrôle d'un notaire, le père Ebesner avait tout prévu dans les moindres détails. Le mode d'élection du président de la banque devait répondre à trois règles. 1. C'était aux trois membres restants du conseil de la banque qu'incombait la tâche de nommer celui qui en deviendrait le quatrième membre et surtout le président. 2. Le conseil ne pouvait pas élire l'un de ses pairs, mais devait coopter ce nouveau membre. Et enfin, 3. La décision, afin d'éviter toute précipitation, ne serait annoncée que lors du traditionnel grand week-end de fin d'année, le nouveau président ne prenant ses fonctions qu'au 1er janvier de l'année suivante. La dernière volonté d'Abel Ebesner eut l'effet d'un coup de tonnerre au sein de la banque. Loin de déstabiliser l'établissement, elle le galvanisa. Des huissiers aux directeurs, tous eurent soudain l'impression d'avoir leur chance d'accéder à la fonction suprême. À tous les échelons, les employés redoublèrent de zèle afin de s'attirer les faveurs des membres du conseil. La banque n'avait jamais été aussi productive. Plus personne ne sollicita le moindre congé maladie et l'essentiel du personnel renonça à prendre des vacances. La frénésie autour de la succession fut telle qu'elle se propagea au reste de la ville. La banque Ebesner était l'une des grandes institutions de Genève et son président figurait parmi les personnalités les plus en vue. Le fait que, pour la toute première fois, la succession à la présidence de l'établissement ne soit pas héréditaire passionnait tout le monde. À mesure que les semaines s'écoulaient, l'excitation montait crescendo. Finalement, le mois de décembre arriva. Tout le monde brûlait de savoir qui rejoindrait Jean-Bénédicte Hansen, Horace Hansen et Signor Tarnogol au sein du conseil et présiderait aux destinées de la banque Ebesner. Aussi, en ce lundi 10 décembre, lorsque, à 10h30, Macaire Ebesner fit enfin son apparition sur le trottoir de la rue de la Coraterie, il exulta en voyant l'imposant bâtiment de la banque se dresser devant lui. Il en contempla la façade avec fierté. Banque Ebesner et fils, depuis 1702. Il allait arriver en vedette, il le savait. Il allait être pour les prochains jours le sujet de toutes les discussions et de toutes les attentions. Surtout garder la tête froide et affecter la modestie. Répétez qu'avant samedi, toutes les options étaient encore ouvertes pour le conseil. Évidemment, ne pas dire qu'il savait depuis longtemps déjà qu'il serait le président. Il lui tardait que samedi arrive enfin. Plus que 6 petits jours, et ce serait officiel. Il devait se montrer patient. Il admira encore le fronton de sa banque et respira plein poumon l'air vivifiant du matin d'hiver. Le soleil rayonnait sur la neige. Le ciel était désormais d'un azur éclatant. Il regrettait de ne pas s'être levé dès son réveil. Pensant fermer les yeux quelques instants, il s'était profondément rendormi. Puisque tout le monde l'attendait, tout le monde allait remarquer son arrivée tardive. Ce n'était pas digne du futur président de la plus importante banque privée de Suisse d'arriver à une heure pareille au travail. Déjà qu'il n'arrivait jamais tôt, mais là, c'était le pompon. Il invoquerait l'excuse de la neige pour cette fois mes résolutions pour le nouvel an. Dès qu'il serait officiellement élu, il serait tous les matins parmi les premiers à la banque. Macaire Ebesner, passant la lourde porte d'entrée de l'établissement tout en dorure et en arabesque, pénétra d'un air important dans le grand hall d'accueil. Il sentit tous les regards sur lui. Derrière leur comptoir, les huissiers le saluèrent d'un ton déférent. Salutations matinales, monsieur Besnard, répéta la petite chorale en inclinant légèrement la tête. Macaire perçut aussitôt que leur regard avait changé. Il se sentit soudain plus important qu'un pape. Tous ceux qu'il croisa le félicitèrent, lui adressèrent des salutations obséquieuses et des clins d'œil complices. Il serait bientôt le chef de tous ces gens, et il avait désormais droit à toutes les flatteries. Les plus flagorneurs lui donnèrent même du « Bonne journée, monsieur le président ». Il prit l'ascenseur avec une grappe de faillots qui se contorsionnèrent devant lui. « Tous des larbins », songea-t-il en contemplant leur danse de Saint-Guy. Mais il n'était pas dupe. Certains parmi ses courtisans avaient retourné leur veste à la dernière minute, pensant d'abord qu'ils seraient écartés par le conseil. Il était conscient de n'avoir pas toujours été pris au sérieux, surtout cette dernière année à cause de la décision qu'avait prise son père juste avant sa mort. La volonté de son daddy de le faire élire président par le conseil de la banque au lieu de le nommer directement l'avait d'abord chagriné. Il aurait préféré que son père fasse comme tous ses prédécesseurs depuis 300 ans et lui passe tout simplement le flambeau. Être le chef tout de suite, quoi, sans avoir à subir ses formalités d'élection. Mais il avait fini par comprendre le fondement de la dernière volonté paternelle. C'était pour mieux asseoir sa légitimité. Il allait être nommé président pour son talent, pas pour son nom. Il en sortirait grandi. Son père avait pensé à tout. Arrivé au cinquième étage, Macaire débarqua en se pavanant dans l'antichambre de sa secrétaire, Christina. Quelle fête elle allait lui faire! Mais Christina l'accueillit avec une mine catastrophée.
« Monsieur Besnard, enfin vous voilà !» s'écria-t-elle.
« Que vous arrive-t-il, Christina ?»
lui demanda Macaire d'un air goguenard.
« On dirait que vous avez vu un revenant. »«
Je ne sais pas comment vous l'annoncer. »«
M'annoncer quoi ?» demanda Macaire tout sourire.
« Si c'est à propos de ma nomination à la présidence de la banque, le journal du week-end s'est chargé de m'en informer. » Macaire eut un sourire amusé et entra dans son bureau en se débarrassant de son épais manteau d'hiver. Christina le suivit dans la pièce et, comme elle restait interdite, il fronça les sourcils.
« Vous m'inquiétez, Christina. Vous êtes toute pâle. J'espère que ce n'est pas votre santé. »
Après une hésitation, elle lui dit « Monsieur Besnard, ce n'est pas vous qui allez être élu président de la banque. »«
Qu'est-ce que vous racontez, enfin ?
Vous n'avez pas vu le journal du week-end ?
Cet article est faux !» s'écria Christina. « C'est Lev Levovitch qui va être élu président !»
Cette dernière phrase claqua comme un coup de feu. Macaire resta sonné un instant. « Qu'est-ce que vous dites ?»«
Levovitch va être élu président » répéta-t-elle. « Je suis vraiment désolé. »«
Oh, la petite ordure !» murmura Macaire.
Il voulut se précipiter dans le bureau de Levovitch pour lui demander des explications, mais Christina l'interrompit dans son élan.
« Monsieur Levovitch ne s'est pas présenté à la banque ce matin, » dit-elle. « J'ai essayé de le joindre par tous les moyens, sans succès. »
« Je suis très inquiète. Il faut absolument que je lui parle. Savez-vous où il se trouve ?»
Macaire, retrouvant sa contenance, prit un air détaché.
« Pas la peine de faire des fausses joies à ce pauvre Levovitch. Il n'est nullement question qu'il devienne le président de la banque. Qu'est-ce qui vous prend de faire courir des rumeurs aussi idiotes ?»«
Je sais qui est la source du journal, figurez-vous. Il s'agit d'un membre du conseil dont je suis très proche et qui m'a assuré depuis des mois que... »«
C'est votre cousin Jean-Bénédicte Hansen ?»
l'interrompit Christina.
« Plaît-il ? »
s'agaça Macaire qui avait horreur de se faire couper la parole par le petit personnel.
« Le membre du conseil dont vous êtes proche, c'est Monsieur Hansen, c'est cela ?»
demanda Christina.
« C'est Jean-Béné, oui, »
confirma Macaire. « Ça vous pose un problème ?»«
Ce matin, j'ai entendu Monsieur Tarnogol qui parlait au téléphone avec Monsieur Hansen. Il lui disait qu'il ne fallait surtout pas vous élire, que cela allait à l'encontre du désir de votre père. À cause de ce qui s'est passé il y a 15 ans, à Verbier. » Il a dit que votre père ne vous l'avait jamais pardonné, que s'il avait voulu que vous soyez élu président, il vous aurait nommé directement. De ce que j'ai compris de la conversation, le conseil s'est réuni vendredi et s'est accordé sur le choix de Levovitch.
« Non, non, non !» rétorqua Macaire. « Jean-Béné ne me ferait pas une chose pareille !»«
C'est aussi ce que je me suis dit, » compatit Christina. Alors je suis allé attendre M. Hansen devant son bureau pour lui poser la question et malheureusement j'avais bien entendu. « Je suis vraiment désolé, monsieur Besnard. Je trouve cela affreusement injuste. »
Refusant de croire que tout cela puisse être vrai, Macaire se précipita à l'étage supérieur pour interroger lui-même son cousin Jean-Bénédicte.
Les bureaux des membres du conseil se situaient tous au sixième étage de la banque. Au bout d'un impressionnant couloir, quatre portes se succédaient. Il y avait d'abord le bureau du président, laissé vacant depuis la mort d'Abel Ebesner. Puis celui du vice-président, qui aurait dû être celui de Macaire Ebesner depuis 15 ans, mais qui, suite à des événements survenus 15 ans plus tôt, était occupé par Signor Tarnogol, un homme de l'ombre, mystérieux, qui passait le plus clair de son temps en voyage entre la Suisse et l'Europe de l'Est. Puis il y avait les bureaux des deux autres membres du conseil, à savoir Horace Hansen, de la branche cousine mais cadette des Ebesner, et son fils, Jean-Bénédicte Hansen, un homme d'une quarantaine d'années, comme Macaire. Jean-Bénédicte Hansen, justement, tournait en rond dans son bureau, en fixant la porte, redoutant l'arrivée furieuse de son cousin Macaire aussitôt qu'il aurait été prévenu par Christina.
« La sale petite fouineuse !»
pesta Jean-Bénédicte à voix haute. 2 heures plus tôt à son arrivée à la banque, il l'avait trouvée devant son bureau. Aussitôt qu'elle l'avait vue, elle lui avait bondi dessus.
« C'est vrai ? »
avait-elle demandé.
« Vous n'allez pas élire M. Ebesner à la présidence ?»
Il avait blêmi.
« Comment le savez-vous »
avait-il balbutié.
« Ma parole, Christina, vous espionnez le conseil ? C'est inacceptable !»«
Ne soyez pas ridicule !» s'était défendue Christina. « Vous feriez bien de dire à M. Tarnogol d'être un peu plus discret si vous ne voulez pas que vos secrets s'ébruitent.
Comment pouvez-vous faire un coup pareil à votre cousin ?»«
Ce ne sont pas vos affaires, Christina !» avait martelé Jean-Bénédicte d'un ton sec. « Je crois que vous outrepassez complètement vos fonctions. Je vous prierai donc de rester discrète et de ne pas en parler à Macaire. »«
Vous voudriez que je ne dise rien ? Et lui laisser apprendre la nouvelle samedi soir devant tous les employés de la banque ? Quelle humiliation pour lui !
C'est plus compliqué que cela.
Je ne peux pas faire comme si de rien n'était, enfin.
Et vous n'avez aucune raison de lui révéler quoi que ce soit. »
Vous vous laissez égarer par votre affection pour lui. Vous sortez complètement du cadre professionnel. Alors, de grâce, Christina, tenez votre langue. Sinon, il y aura de sérieuses conséquences pour vous. Croyez-moi.
Que chacun fasse ce qui lui semble approprié, avait conclu Christina. Elle s'en était allée avec un air de défi et il l'avait suivie d'un regard mauvais jusqu'à ce qu'elle atteigne l'ascenseur. Elle était décidément la reine des enquiquineuses. Ah, comme il s'en voulait de l'avoir engagée. Tout ça pour être serviable. D'abord, il lui avait trouvé un poste taillé sur mesure. Puis, elle avait demandé à pouvoir être installée dans l'antichambre, arguant qu'elle ne pourrait pas faire son travail correctement si elle était avec toutes les secrétaires dans un bureau commun. Et lui qui avait dit « Amen » à tout pour être arrangeant, voilà comment il était remercié. La porte du bureau de Jean-Bénédicte s'ouvrit soudain brutalement et Macaire fit son apparition.
« Jean-Béné, dis-moi que c'est pas vrai. » Dis-moi que ce n'est pas Levovitch qui va être élu président de la banque par le conseil.
Je suis vraiment désolé, regretta Jean-Bénédicte en regardant le plancher.
Un silence glacial envahit la pièce. Macaire, sous le choc, se laissa choir dans un fauteuil et ferma les yeux, comme pour se couper de l'insoutenable réalité. Il était écarté de la présidence de la banque familiale. Quelle honte! Quelle humiliation! Qu'allaient dire les gens? Qu'allait dire sa femme? Jusqu'à aujourd'hui, s'il avait été un personnage important à Genève, c'était en sa qualité d'héritier de la banque Ebesner. Mais désormais, écarté par son père, écarté par ses pères, il serait la risée de toute la ville. Tout son monde s'effondrait. Il n'aurait ni honneur, ni courbette. Il songea à la grande salle du conseil, le Saint des Saints, où il avait imaginé son portrait trônant à côté de celui de son aïeul, Antiochus Ebesner. Et il se demanda ce qu'Antiochus Ebesner aurait pensé de tout cela. Antiochus Ebesner avait fondé la banque Ebesner à Genève en 1702. Pour ce faire, il avait demandé un financement à une branche cadette de la famille, les Hansen, des affreux cousins avares comme des rats qui avaient fui de France en Suisse après la Saint-Barthélemy et qui, de la vie d'Ebesner, auraient mieux fait de s'y faire massacrer, car au lieu d'un prêt, ils avaient exigé une participation dans la banque en échange de l'argent. Antiochus n'eut donc pas d'autre choix que de céder des parts au cousin Hansen, tout en conservant le contrôle de la majorité. Mais se méfiant de lui, et pour se prémunir d'un putsch au sein de sa propre banque, Antiochus décida de créer un conseil des propriétaires et céda près de la moitié de ses parts à son fils Melchior, pour l'y faire siéger en qualité légitime de vice-président, afin de le former et lui permettre de reprendre les rênes de l'établissement à sa mort.
Bien que de toute façon minoritaire, mais pour éviter de se retrouver à deux contre un, le cousin Wilfrid exigea de pouvoir faire de même et céda la moitié de ses parts à son fils aîné, qui entra au conseil à son tour. Après quoi, afin de mettre un terme à la guerre intestine qui commençait à nuire à la réputation de la banque, il fut convenu entre Antiochus et Wilfrid que le conseil de la banque se composerait uniquement de 4 membres détenant la totalité des parts. 2 Ebesner, père et fils, qui formeraient la majorité, 2 Hansen, qui resteraient minoritaires, le versement de copieux dividendes compensant leur statut subalterne. Ceci permit aux Ebesner de garder un contrôle total de leur banque, se cédant leur part de père en fils et de génération en génération, tandis que les Hansen, considérés comme une branche inférieure de la famille, furent condamnés à rester en arrière-plan. Pendant 10 générations, la bonne fertilité familiale avait permis aux Ebesner de ne jamais voir s'interrompre le roulement instauré en 1702 par Antiochus, chaque président ayant eu au moins un descendant mâle, patriarcat oblige. Il en fut ainsi jusqu'à l'avènement d'Auguste, le grand-père de Macaire, qui, devenu président de la banque, céda la place de vice-président à son fils Abel, le père de Macaire. Et lorsque le grand-père Auguste décéda, c'est tout naturellement qu'Abel offrit son siège de vice-président du conseil à son fils unique, Macaire, alors âgé de 26 ans. Cela s'était produit 15 années plus tôt. Macaire s'en souvenait comme si c'était hier. À cette époque, le traditionnel grand week-end annuel au palace de Verbier avait déjà lieu depuis longtemps. Et c'est à cette occasion, lors du bal du samedi soir qui constituait le point d'orgue du week-end, qu'il avait reçu devant tout le monde, de la main de son père, sa part d'action qui lui revenait, le propulsant, selon la règle établie 300 ans plus tôt par Antiochus Ebesner et Wilfrid Hansen, au rang de vice-président du conseil. Mais Macaire Ebesner n'eut jamais l'occasion de siéger au sein du conseil, puisqu'il eut la mauvaise idée, pour une raison que personne ne comprit jamais, de céder ses actions à un certain Signor Tarnogol, un homme d'affaires sans scrupules, originaire de Saint-Pétersbourg et désireux d'investir de l'argent suisse. Abel Ebesner, en apprenant la nouvelle, avait, bien entendu, tout mis en œuvre pour récupérer les actions de son fils. Il avait d'abord saisi la justice, sans succès, la vente ayant été valablement constituée. Il avait alors essayé de négocier, prêt à offrir une somme astronomique pour récupérer les précieuses actions. Mais Signor Tarnogol avait refusé. Il devint ainsi membre du conseil à la place de Macaire, et en qualité de vice-président de surcroît, bouleversant l'ordre établi par Antiochus Ebesner depuis 300 ans, qui avait pensé à tout pour assurer la pérennité de son nom au sein de la banque, sauf à la possibilité qu'un Ebesner puisse un jour vendre ses parts. La voix du cousin Jean-Bénédicte ramena Macaire à sa triste réalité. « Lévovitch est le plus à même de diriger cette banque, » dit-il. « Il faut se rendre à l'évidence. Ses résultats sont exceptionnels et les clients le vénèrent. » « J'ai eu une mauvaise année, c'est vrai, » concéda Macaire. « Mais tu sais très bien pourquoi. La mort de mon père en janvier, sa décision de ne pas me nommer directement à sa succession, ou sa décision de ne pas te nommer du tout, » osa Jean-Bénédicte. « Qu'est-ce que tu sous-entends ? Je crois que ton père ne t'a jamais pardonné ce que tu as fait il y a 15 ans. Qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête ce jour-là, enfin ? Peu importe, tu ne comprendrais pas. Mais est-ce que tu finiras par me le dire un jour ? Quand même, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu as brisé le pacte des Ebesner, tu as cédé tes actions. Et toi, tu m'as menti tout au long de l'année, accusa Macaire, en m'affirmant que je serais élu président par le conseil, tout pour finalement me poignarder dans le dos. Je croyais que nous étions amis. Je ne t'ai pas trahi, Macaire, assura Jean-Bénédicte. Je ne t'ai jamais menti. Tu es mon cousin et mon ami, enfin. Dès le mois de janvier, le conseil avait décidé que ce serait toi qui succéderais à ton père. Nous étions tous d'accord. Ce serait toi le président, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Non seulement par volonté de maintenir la tradition, mais aussi pour envoyer un signal de stabilité aux clients. Mais il se trouve que tes résultats n'ont pas cessé de baisser, Macaire, tout au long de l'année. Et moi j'ai tout fait pour t'aider. Je t'ai défendu bec et ongles. En juin, quand le conseil s'est inquiété de tes mauvais résultats intermédiaires, j'ai fait engager une assistante supplémentaire uniquement pour toi. Une assistante pour Lévovitch et moi, nuança Macaire. Enfin, tu savais parfaitement qu'elle était engagée pour toi, pour t'aider à remonter la pente. C'est pour t'éviter une humiliation que nous avons prétendu qu'elle était une force supplémentaire pour Lev et toi, au vu de vos nombreux clients. Mais c'est Lévovitch qui l'utilise le plus. Eh bien, tu es un idiot, s'emporta Jean-Bénédicte.
« Tu ne sais pas gérer tes ressources, raison de plus pour ne pas te confier toute une banque !»
Le soudain changement de ton de Jean-Bénédicte déstabilisa Macaire. Il dit alors d'une voix étranglée
« Mais la semaine dernière, après la réunion du conseil, tu m'as assuré que ce serait moi !»«
Mercredi dernier, c'était bien toi qui étais le choix du conseil, » confirma Jean-Bénédicte.
« Je ne t'ai pas raconté d'histoire. »
« Que s'est-il donc passé ?»«
Vendredi matin, Signor Tarnogol a demandé à nous voir, mon père et moi. Urgent, qu'il a dit. Et là, il nous montre tout un dossier qu'il a monté sur ton compte. »«
Un dossier ? Avec quoi dedans ?»«
Tes résultats de l'année. Catastrophique. Et des lettres de clients mécontents. »«
Tu as de nombreux clients qui ont soit changé de gestionnaire, soit changé de banque, Macaire.
Nous l'ignorions complètement. »
« Écoute, Jean-Béni, j'ai foiré, j'ai eu une mauvaise année, c'est vrai, mais j'ai fait une carrière irréprochable jusque-là. Je suis le plus gros gestionnaire de fortune de cette banque. »«
Lévovitch et toi êtes les plus gros gestionnaires de fortune de la banque, » précisa Jean-Bénédicte. « Mais même dans tes meilleures années, tu n'as jamais été au niveau de Lévovitch. Enfin bref, voilà que Tarnogol nous montre les chiffres et nous explique qu'il a bien réfléchi et qu'il pense que nous sommes en train de commettre une lourde erreur en voulant te nommer président à tout prix alors que tous les voyants sont au rouge. »
Il dit que nous nous sommes toujours accordés sur toi par respect de nos traditions, mais sans penser à l'intérêt de la banque.
Et là, il souligne que si ton père a décidé de ne pas te confier les rênes de la banque, c'est qu'il y a une raison sérieuse. C'est pourquoi il faut élire Lev Lévovitch à la présidence.
Et tu ne m'as pas défendu ?
Bien sûr que je t'ai défendu,
assura Jean-Bénédicte.
Alors, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ce qui se passait ? Pourquoi a-t-il fallu que j'apprenne tout ça ce matin par ma secrétaire ?
« J'ai essayé de te prévenir, » se justifia Jean-Bénédicte. « Vendredi, je ne t'ai pas trouvé à la banque de la journée et tu étais injoignable au téléphone. »«
J'étais en voyage, » expliqua Macaire.
« Pour la banque ?»«
Oui. »«
En voyage où ?»
Macaire, se méfiant d'une question piège, préféra ne pas mentir.
« À Madrid. »«
Tu n'as pas de client espagnol, Macaire. »« C'est d'ailleurs le plus gros point du dossier de Tarnogol contre toi. » Il a découvert que ça fait des années que tu voyages aux frais de la banque dans des pays où tu n'as pas de clients.